OK, donc merci aux organisateurs et organisatrices de m'avoir invité. Donc, je vais commencer. Comme vous l'avez compris, ma conférence d'aujourd'hui va s'appeler « Le mythe subversif, Akira Toriyama et l'explosion des schémas ». Je vais débuter. Qu'est-ce qui fait qu'une œuvre s'inscrit suffisamment fort dans la pop culture pour qu'elle devienne presque synonyme de son médium? Qu'est-ce qui fait que Mozart est presque synonyme des musiques classiques, que Mario Bros de jeux vidéo ou que Shakespeare de théâtre? Qu'est-ce qui fait qu'on associera presque unanimement certaines figures à des champs et des créations aussi larges? Plusieurs éléments semblent s'imposer. Par exemple, la figure doit être une sorte de pionnière dans son médium. Elle doit avoir assez influencé son médium à un moment suffisamment lointain pour que ce soit visible aujourd'hui et qu'on puisse encore sentir son influence. Autrement dit, on doit pouvoir placer un avant et un après. Or, ce que cela implique, c'est qu'en plus d'être pionnière, la figure doit s'inscrire dans une sorte de rupture avec ce qui venait avant. Si Mario aujourd'hui est synonyme de jeux vidéo, la figure qu'elle a su supplanter comme celle, par exemple, plus pionnière comme les barres verticales du jeu Pong, c'est qu'en fait, Mario a complètement transformé la manière d'appréhender à la fois le gameplay, mais également la narration présente dans ce médium-là. Finalement, la figure doit avoir su toucher un public suffisamment large qu'il a su s'extirper de sa seule culture d'origine pour devenir incontournable à l'échelle mondiale. En effet, aujourd'hui, on joue Shakespeare partout dans le monde, on entend du Mozart dans toutes les salles de concert. Aujourd'hui, avec cette communication, vous l'aurez compris, nous étudierons une de ses œuvres qui est devenue intrinsèquement liée à l'imaginaire de son médium. Issue d'une forme de divertissement qui, avant elle, était exclusive à sa culture d'origine, l'œuvre que nous étudierons aujourd'hui est devenue au fil du temps tellement marquante que même ceux qui ne s'y intéressent pas ont au moins une vague image de ce que c'est dans la tête. Aujourd'hui, on va parler du manga Dragon Ball d'Akira Toriyama. Je vais en profiter pour dire tout de suite que les sources des images sont issues de l'édition, de la Perfect Edition, sortie au début des années 2000 jusqu'à la fin. Donc, ça explique les colorisations et peut-être les différences de traduction si vous avez connu cette œuvre-là plus tôt lorsqu'elle est sortie. Aujourd'hui, en fait, on va tenter de voir en quoi cette œuvre improbable a pu, dès ses premiers chapitres, poser le jalon qui allait en faire une œuvre incontournable de la culture populaire mondiale. En analysant notamment ses tropes de narration et sa manière de jouer avec les clichés, nous verrons certains éléments qui font des aventures de Son Goku, le personnage principal, et ses amis, la figure la plus emblématique du manga partout dans le monde. Ça va passer par un jeu notamment avec la culture orientale et ses tropes. En effet, l'œuvre du mangaka Akira Toriyama est probablement l'une des plus influentes de la culture populaire mondiale et a servi de porte d'entrée à la culture otaku dans la majorité des pays de l'Occident. Le manga Dragon Ball s'est aujourd'hui imposé comme l'un des plus grands monuments de la bande dessinée d'action. Comment cette histoire, que si vous voulez en premier lieu une courte série humoristique, en est arrivée à ce point-là? La faute appartient à un auteur à la fois créatif dans sa mise en scène, mais surtout dans sa narration, constamment à mi-chemin entre la parodie et une œuvre premier degré. Akira Toriyama a, avec son œuvre, posé le jalon de ce qu'est devenu la bande dessinée d'action moderne. Autrement dit, a créé ce qui est devenu aujourd'hui le shonen neketsu moderne. Pour s'imposer dans son milieu, qui était très difficile à l'époque à être publié, Toriyama a dès les débuts de son manga créé des échos avec une œuvre très connue pour en détourner les événements et les personnages dans un but humoristique. Une œuvre très connue en Orient qui s'appelle La pérégrination vers l'Ouest. Dragon Ball en fait est publié pour la première fois au milieu des années 80 au Japon en narrant puis ça narre en fait la quête d'une jeune fille riche qui recherche des boules de cristal magiques qui, lorsqu'elle réunit, il y en a 7. Permettent d'exaucer n'importe quel vœu. Elle va s'entourer au cours de sa quête de plusieurs personnages, dont un petit garçon avec une queue de singe, qui va l'aider en lisant un peu son garde du corps. Le premier arc narratif du manga se veut une réécriture satirique du classique de la littérature chinoise, qui était très connue au Japon à l'époque également, très, très ancrée dans la culture, qui s'appelle La pérégrination vers l'Ouest, écrit par le chinois Wu Cheng'en à la fin du 16e siècle. En fait, dans le premier acte de Dragon Ball, les grandes lignes de l'aventure et les personnages rencontrés s'inspirent explicitement de ceux de l'œuvre de Wu Cheng'en. Tout comme le roman chinois débute en mettant en scène le roi singe Sun Wukong qui possède un bâton magique pouvant s'allonger à volonté, les premières cases du manga nous présentent Son Goku, un petit garçon en queue de singe possédant la même arme. Il était intéressant de noter d'ailleurs que c'était pas juste un clin d'œil, c'était vraiment un hommage appuyé, parce que les kanji qui forment le mot Son Wukong en chinois peuvent être traduits en japonais par Son Goku. Donc c'est vraiment une référence explicite. Cependant, là où Sun Wukong, de la pérégrination vers l'Ouest, est un personnage noble tentant de trouver sa place dans le monde, Son Goku est un petit garçon un peu idiot qui ne pense qu'à manger et à se battre. Il ne connaît rien d'autre que sa forêt et part à l'aventure un peu par dépit. Par la suite, le roman, comme vous pouvez le voir, Son Goku, c'est un personnage qui va devenir un peu l'archétype aussi du shonen par la suite, en étant un personnage qui a d'allure un peu faible, mais qui a force de détermination, malgré son manque d'attributs, notamment sa petite taille et son manque de ressources intellectuelles, va réussir à se développer. Par la suite, dans le roman de Wu Cheng-en, après avoir rencontré Sun Wukong, on va faire la rencontre avec le moine Xuan Zhang, je prononce probablement très mal, mais je suis désolé. on va voir la rencontre entre ce moine-là et Sun Wukong, le roi singe, qui décide de l'accompagner pour le protéger dans sa quête visant à apporter des écrits en Inde. Chez Toriyama, cette scène est propice à un changement marquant. Au lieu d'un moine motivé par un désir de plaire aux dieux, donc une quête plutôt noble, on fait la rencontre de Bulma, une jeune fille de 16 ans, riche, totalement égoïste, qui recherche des boules de cristal pour se faire exaucer le vœu d'avoir un bel amoureux. Un peu naïve, mais beaucoup moins que Son Goku, elle réussit à le convaincre de la suivre comme garde du corps en prenant conscience de sa force, lorsque celui-ci va notamment détruire sa voiture en croyant que c'était un monstre. Par la suite, le duo, va partir à l'aventure. Bulma va se servir de sa ruse pour attirer Son Goku. Et par la suite, ils vont faire rencontre d'un autre personnage qui s'appelle Oolong. Un petit cochon ayant la capacité de se transformer en n'importe quoi, pour 5 minutes. Et qui est inspiré à la fois de Zubaji, un des protecteurs du moine dans le roman. Qui a une apparence porcine et qui peut se transformer également en plusieurs transformations, mais également de Bai Lingma, qui sert de monture au héros. Je laisse constater comment ça se termine dans le cas de Dragon Ball, par exemple. On voit que Oolong n'est pas très efficace comme monture. Encore une fois, le code moral du personnage est complètement détourné pour en faire une espèce de parodie. On part d'un personnage noble pour qu'il devient une espèce de pervers, lâche et venteur qui ne suit les héros que par obligation. Il cherche constamment à s'enfuir. Le dernier compagnon qui vient compléter la troupe est dans la pérégrination vers l'ouest, Xia Wujing, un bandit des sables qui commence par être un ennemi du groupe, qui va les attaquer, mais termine comme un allié fidèle. Dans Dragon Ball, ce rôle est attribué à Yamcha, le bandit du désert, dont le caractère, encore une fois, est modifié dans un but humoristique. Se voulant menaçant au départ, on découvre rapidement que Yamcha est plutôt inapte et surtout incapable de ne pas s'évanouir à la vue d'une fille. En prenant ses bases comme point de départ, Toriyama va probablement mettre en place, à l'aide des éléments issus d'une œuvre extrêmement connue au Japon, les assises d'un univers où tout était prétexte à créer à la fois excitation et souffle épique. Mais dans un contexte où tout est constamment désamorcé par des ressorts de la parodie. En ce sens-là, il n'est pas étonnant que le public japonais ait adapté Dragon Ball et l'a suffisamment apprécié pour que son auteur se voit offrir de sérialiser son œuvre sur le long terme. Les tropes sur lesquelles il s'appuyait pour les prendre à revers, font du manga une œuvre qui s'inscrit en rupture avec une certaine idée de la narration. En ce sens-là, elle est également pionnière d'un style, car à l'époque, les héros d'action étaient tous des personnages déjà très forts, nobles, qui se battaient pour une noble cause. C'était à l'époque, au niveau du manga, des personnages comme Okuto no Ken, comme Kenshiro dans Okuto no Ken, comme Ryo Saiba dans City Hunter. Des personnages déjà accomplis, qui n'ont rien à prouver et qui partent à l'aventure pour des nobles causes. Avoir un héros qui est un peu idiot et qui semble d'emblée plutôt faible, mais qui accomplit en fait un but complètement personnel dans son propre intérêt, qui en premier, dans le cas de Son Goku, c'est en fait juste donner un coup de main à Bulma parce que son grand-père lui avait dit de toujours être gentil avec les filles. Et il faut en même temps essayer de voyager pour dépasser ses limites, mais c'est un but complètement personnel. Il n'y a pas de noble cause rattachée à ça. Et ça se fait dans un univers qui mélange humour constamment, avec cette espèce de caractère épique d'action. C'était vraiment novateur à l'époque, mais aujourd'hui, ça semble être devenu une sorte de norme, en fait, dans la plupart des shonen de Ketsu. On retrouve ça dans Naruto, One Piece, et même dans Pokémon pour ceux qui sont plus de la génération. Or, là où tu deviens encore plus intéressant, c'est lorsqu'on se penche sur l'autre inspiration majeure de Toriyama par rapport à la création de la trame des premiers chapitres de son manga. Et ça, cette inspiration-là vient de la culture occidentale et de Star Wars. Ça peut paraître un peu étrange vu ce que j'expliquais depuis tout à l'heure, mais ça va prendre tout son sens. En effet, outre les nombreux clins d'œil stylistiques à base de voitures volantes et maisons en forme de dôme qu'on retrouve dans Star Wars sur Tatooine, on retrouve les tropes de création des personnages chers à l'univers de George Lucas dans la première ère de Dragon Ball. Tel que théorisé par le chercheur Joseph Campbell dans son ouvrage Le héros aux mille visages, dont le créateur de Star Wars s'est dit énormément influencé, on retrouve dans Dragon Ball le schéma suivant ayant servi de base à une énorme quantité de récits en Occident, mais aussi en Orient. Dans le fond, ce que Joseph Campbell explique dans son ouvrage, c'est qu'il théorise la théorie du monomythe, qui fait en sorte que la plupart des grandes histoires qu'on retrouve racontées ont une base commune, cette base commune-là étant le Hero's Journey, le voyage du héros, et qui va suivre le schéma suivant. Un jeune héros forcé à quitter son foyer pour participer à une quête qui le dépasse suite à un événement qui rend son départ inévitable. Dans le manga, Sengoku part pour ne pas avoir donné sa boule de cristal, qui est un souvenir de son grand-père, à Bulma, tout en obéissant aux dernières volontés de ce dernier, qui est de ne pas rien refuser à des filles. Ici, le jeu avec la trope vient de la naïveté et de la vacuité de la quête, qui n'a rien de noble comme la défense de la galaxie ou la destruction d'un anneau maléfique. Ensuite, le héros va rencontrer un mentor, un sage qui lui donnera souvent un savoir, un pouvoir ou une arme, qui va pouvoir l'aider dans sa quête et lui permettre en fait de parvenir jusqu'au bout. Dans Dragon Ball, le Bimon Kenobi de service, c'est Muten Roshi, un vieux maître en arts martiaux qui n'a rien d'un sage, d'où la subversion du trope, et qui se comporte comme un adolescent obsédé. Il donne à Goku le pouvoir, il lui transmet à Goku le pouvoir du Kamehameha, qui va lui servir à arriver au bout de sa quête à un certain moment, mais tout en étant extrêmement destructeur et en créant beaucoup de problèmes à l'équipe par sa puissance. On est loin de la force qui va régler le problème de Star Wars. Et dans le cas de cette pérégrination, pas cette pérégrination-là, mais de cette journey, le héros va aussi se faire des alliés. Les rencontres qu'il va forger vont le permettre de toujours progresser dans sa quête et de arriver à son but. Han Solo et Chewbacca dans Dragon Ball sont remplacés ici par Yamcha et Pu'er, qui sont des espèces de paradis de dur à cuire, comme on l'a vu. Et la princesse Leia, courageuse et pleine de ressources, est remplacée par Bulma, qui, malgré sa grande intelligence, qui va se révéler notamment dans les arcs suivants du manga, elle se retrouve constamment complètement dépassée par les événements et constamment en besoin d'être sauvée. Elle devient une espèce d'archétype complètement parodique à un point où ça devient presque risible de la demoiselle en détresse. Finalement, selon Joseph Campbell, le héros devra trouver l'objet de sa quête en affrontant la mort. Ici, dans l'occurrence, c'est les 7 Dragon Ball qui vont être l'objet de la quête. Et c'est là où, selon moi, le trope est encore le plus parodique. Lorsque le groupe de Goku et ses amis sont emprisonnés et affrontent les antagonistes en fait se révèlent d'une inefficacité extrêmement risible qui ne dégage que la bêtise de notre groupe qui tombe dans un piège vraiment évident en suivant des flèches sur le sol. De plus, l'objet de leur quête, qui était de réunir la Dragon Ball, est totalement ridiculisé lorsque le vœu finalement est souhaité. En fait, comment ça se déroule, c'est qu'ils sont emprisonnés dans la pièce que vous voyez là, grâce au Kamehameha, qui est une espèce de rayon laser destructeur que Goku fait avec ses mains, où Long est capable de sortir de la cage et d'aller devant le dragon sacré qui vient exaucer le souhait des Dragon Ball pour énoncer le vœu suivant et qui va empêcher justement les antagonistes de dominer le monde. Donc, c'est là aussi que ça devient encore plus risible, c'est qu'on invoque une entité mystique incroyablement puissante pour lui faire apparaître finalement une petite culotte. Donc, cette réutilisation des bases de la narration à la fois orientale avec la parodie de la trame des personnages de la pérégrination vers l'ouest, mélangée à des tropes de narration très familières, en Occident comme ceux, comme très familiers, c'est-à-dire en Occident comme ceux utilisés pour Star Wars. C'est certainement ce qui fait de Dragon Ball l'œuvre qui est et qui a su s'imposer comme la figure principale de son médium. Aujourd'hui, Dragon Ball parle à un public mondial par ses références, tout en créant un univers unique dans lequel tout le monde peut s'identifier. Et ça va se continuer dans tous les arcs, en fait. Là, j'ai parlé de Star Wars, mais par la suite, il va y avoir la même référence à des choses comme les comics américains avec Superman, la mythe de Superman, des références à des films comme Terminator, Alien. Ça va constamment continuer à puiser dans la pop culture, mais aussi dans les tropes de manga et de culture orientale. C'est vraiment un mélange hétéroclite. La grande popularité du manga encore aujourd'hui, où des nouvelles histoires continuent à être écrites autour de l'œuvre, et qui fait qu'en fait aujourd'hui, Dragon Ball est le manga le plus vendu à l'étranger. Il a été dépassé au sein du Japon, mais à l'étranger, ça reste le plus vendu de tous les temps. C'est un véritable témoignage du fait que le jeu autour du trop est un élément créatif notoire en pop culture. Un élément créatif dont les successeurs les plus prometteurs de l'œuvre de Toriyama, comme One Punch Man du mangaka One, semblent être également au courant.